parole du jour avec le Père Willem.
Dans la joie et l'allégresse, entre la terre et le ciel, il y a environ 500 ans, la prière s'affadit considérablement en Occident. Le puritanisme proscrivit les danses et les rires. Et dans toute l'Europe, on se mit à penser la prière de façon mentale avant tout. On oublia que l'homme est un corps et que l'exubérance physique devrait être l'expression d'un débordement de joie lorsqu'il prie. Il est arrivé un jour que Monseigneur Duhier, le terrible archevêque de Birmingham, fut assis à côté d'un prêtre alors qu'une femme gracile sautillait avec les offrandes au moment de l'offertoire. Il se tourna vers lui et déclara « Si elle demande ta tête sur un plateau, je la lui donnerai. » Lors d'une vision surnaturelle, Hildegard Bingen entendit des musiques merveilleuses, louanges pour les joies d'en haut. Pour elle, la musique est le souvenir d'une familiarité contemplative et d'un état de fusion, hélas, perdu. Preuve, si besoin en est, que le ciel, notre future demeure, est réservé aux âmes musiciennes. La foi naît de l'audition, écrivait l'apôtre Paul aux Romains, et lui-même devait cantiller les psaumes, traduisant déjà cette aspiration à rencontrer le divin par la musique et le chant. Toutes les religions connaissent le pouvoir de la musique sur les âmes. Celle-ci, dans l'Ancien Testament, sanglote au son du corps ou se réjouissent au rythme des percussions. Entre ciel et terre, la musique tient sa place, allant de l'un à l'autre, touchant le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. La musique dite profane, la chanson, ont aussi leur place et beaucoup participent à cette exaltation du chant dont parle Luther. La langue doit être en fusion, si bien que l'esprit s'en élève comme une écume. Les mots et le corps entier vivent et tous les membres participent à la vie. Oui, c'est bien de vie dont il est question quand on parle de musique. Quand le fils aîné rentre des champs, raconte l'évangile de Luc, il entend de la musique et des danses qui fêtent le retour à la maison de son frère. Et il en est douloureusement frappé, ne voyant pas que la musique l'invite à revenir à la vie, qu'elle est signe de retrouvailles, qu'elle efface l'angoisse et la douleur de la perte et qu'elle rend grâce. Réponse de l'homme à Dieu. Elle fait partie de l'expérience croyante, parfois même elle la provoque. Si en écoutant ses réflexions, un grand désir vous pousse à réentendre le printemps du Valdi, célébrant ce mois de mai, nous n'aurons donc pas perdu notre temps. La musique, c'est le langage de l'âme. La musique a une dimension intérieure spirituelle. C'est l'expression culturelle la plus intime. Quand vous écoutez le mouvement lent du deuxième concerto pour piano de Mozart, vous recevez une clé pour vivre. Sa musique, très humaine, porte en elle une grandeur d'âme qui fait surgir une espérance. elle vous transmet la force qui l'habite. Il y a quelque chose de sacré dans cette émotion musicale qui entre en vous et vous bouleverse profondément. Vous la recevez comme la flamme de la foi. Il vous appartient de l'entretenir en allant découvrir d'autres œuvres de lui, de la nourrir en vous renseignant sur les conditions dans lesquelles Mozart l'a composé. Peut-être vous risquerez-vous à écouter la symphonie concertante pour violon et alto. Peu à peu, comme dans une quête, vous entrez dans un monde d'une richesse infinie. L'évangile de Luc est le seul qui, à deux reprises, fait mention d'une activité musicale. Alors qu'on s'attendrait peut-être à ce que les anges du Gloria en fassent partie, il n'en est rien. En effet, contrairement à ce que les chants de Noël laissent supposer, les anges n'entonnent pas l'hymne des cieux, mais se contentent de le dire. Ainsi, la troupe nombreuse louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». La première occurrence où il est fait mention de musique se trouve en Luc au chapitre 7, verset 32. « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. » En mettant en scène des enfants jouant des musiques joyeuses et tristes qui ne réussissent pas à entraîner leur auditoire, la parabole caricature l'attitude de pharisiens, de légistes, incapables de reconnaître la justice de Dieu dans les événements qui se présentent à eux. Entre Jean le Baptiste et Jésus, les propositions spirituelles sont cohérentes, mais différentes. Le Baptiste est dans une démarche ascétique. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et les pharisiens le prennent pour un fou. Jésus mange et il boit, et les mêmes le traitent de glouton et d'ivrogne. La parabole explicite cet aveuglement. Quelle que soit la musique jouée, quel que soit le style de vie proposé pour approfondir une démarche spirituelle, les pharisiens incriminés restent de marbre, incapables de reconnaître la justesse du message et d'entrer en empathie avec ce que la vie leur propose. C'est donc à la fois leur manque de réaction et leur incapacité à se laisser déplacer par la justice de Dieu qui est pointée par Jésus. Il y a un point commun aux deux passages de l'évangile de Luc où on entend de la musique. Dans les deux cas, il est question de choisir entre participer à la vie ou la commenter. Par la parabole des enfants jouant de la flûte, Jésus reproche aux pharisiens de ne pas savoir lire les événements. Leur jugement les empêche ainsi de participer à la vie en riant ou en pleurant. Elle les retient de découvrir dans leur propre histoire l'actualité de la présence de Dieu. La musique est extérieure à eux, elle ne les touche pas, elle ne les entraîne pas. Le fils aîné se retrouve dans une situation étonnamment similaire. Il refuse de voir une bonne nouvelle dans le retour de son frère. Il n'y voit ni joie ni soulagement. Il ne repère pas que la justice de Dieu est à l'œuvre dans la réaction du Père. Dans les deux cas, la musique est un appel à revenir à la vie et au présent Pour vivre ce qui se présente plutôt que d'en faire le commentaire.